À la dernière leçon, nous avions parlé de l'être et de l'avoir, et nous nous étions interrogés sur la nature de l'avoir, en fait sur l'être de l'avoir. Nous avons marqué que l'avoir était vraiment le propre de l'homme. Et de telle sorte que vous voyez, opposer l'être et l'avoir et dire il faut être et non pas avoir, enfin, promouvoir une société de l'être plutôt qu'une société de l'avoir, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer de slogans et de rhétorique à ce sujet était complètement absurde, puisqu'il est dans l'être de l'homme d'avoir. Le moine qui fait vœu de pauvreté, qui fait vœu de dépouillement, a un habit. Et il ne se dépouille que dans la mesure, d'ailleurs, où il est habillé. Parce que, vous voyez, s'il se mettait, on l'avait dit, entièrement nu, eh bien, il ne pourrait pas vivre ce dépouillement spirituel aussi. Hein, l'habit protège le moine, lui rappelle qui il est, mais en même temps dévoile... en dévoilant son visage et ses mains, ben justement, les lieux de sa plus haute expressivité intérieure et donc aussi la possibilité d'un dévoilement, d'une dénudation spirituelle. L'être de l'avoir, vous voyez, c'est tellement fort chez l'homme qu'il y a beaucoup de choses que nous exprimons en termes d'avoir. Alors même que ça relève de notre être. D'une certaine façon, l'avoir envahit toutes nos expressions, puisque nous disons que nous avons à faire quelque chose, par exemple. Hein. Donc l'avoir exprime le devoir. Nous disons que nous avons une femme et des enfants. Est-ce que avoir un enfant, est-ce que ça relève de l'avoir comme de la propriété, vous voyez, ou de ce qui nous appartient, mais dans quel sens y a-t-il appartenance? En tout cas, on relève bien que le verbe « avoir » se déploie dans toutes les dimensions de l'humanité. Et même si on va plus loin, vous remarquerez qu'en métaphysique, Thomas d'Aquin dira que la créature n'est pas l'essai. Elle n'est pas l'être, mais elle a l'être. Habens, elle est habens esse. Avoir l'être. C'est très curieux. C'est-à-dire que le fond de notre être s'exprimerait encore par un certain avoir. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec la catégorie, ça n'a rien à voir, regardez, avec la catégorie avoir, bien sûr. Hein. Vous avez bien sûr, on n'est pas dans l'habitus au sens d'une catégorie particulière, parce que là, ça renvoie à l'essai même. Mais c'est juste pour vous montrer que si le verbe a cette capacité de tout envahir, on a une certaine image, avoir l'être, on a une certaine image qui vient, qui est liée à l'avoir comme habitus. Bien sûr, là, il y a une équivoque quand même. Mais... malgré tout, vous voyez, c'est pas sans lien. Donc, penser l'avoir, c'est penser quelque chose de fondamental. Et c'est pour cela que la philosophie s'étant souvent focalisée sur la question de l'être et ayant perdu de vue la question de l'avoir, est souvent passée à côté de l'essentiel et a laissé le monde courir à l'anarchie de l'avoir. À l'absence d'une pensée et d'une régulation de l'avoir, surtout quand on est sorti, si vous voulez, des pensées traditionnelles. Les pensées traditionnelles étant des pensées de l'avoir et de l'avoir enraciné dans l'être. Je vous l'avais montré quand on avait essayé de parler de l'oïkos dans le module sur la famille. Qu'est-ce que c'est que l'oïkos pour les anciens? C'est un avoir qui est enraciné dans l'être. On pourrait dire que le premier avoir, c'est avoir des parents, avoir des enfants, et que toute forme d'avoir se pense à partir de ces premiers avoirs, c'est-à-dire à l'intérieur des relations de parenté. De telle sorte que les devoirs qu'on a, même les échanges marchands, sont toujours liés à des relations de parenté. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment des échanges marchands, c'est des échanges de réciprocité, mais ce dont on a besoin. Dans les sociétés primitives, les relations de parenté priment sur toute forme de relations marchandes et les échanges se font à l'intérieur de la parenté de cette façon-là. Mais vous voyez, on est dans un domaine vraiment fondamental. Et je vous avais dit qu'une des grandes pensées, par exemple, de Lavoir, c'était une pensée qui était liée à l'usage. Je n'ai que ce dont je puis user. Et ce que je ne vous ai pas dit la dernière fois, puisque je n'ai pas mentionné, enfin, il y avait une dernière citation qui était la citation de Thomas d'Aquin, reprenant d'ailleurs aussi saint Ambroise, c'était le fait que tout ce dont je n'use pas et qui est en surabondance chez moi, non seulement je ne l'ai pas, vraiment, vous voyez, parce que l'avoir, avoir, c'est user de la chose, non seulement je ne l'ai pas, mais je le vole. Alors ça, c'est beaucoup plus radical encore, vous voyez. On pourrait aller encore plus loin dans la pensée de l'avoir en disant que ce que j'ai comme un titre nominal de propriété qui est dans ma maison, vous voyez, tous les manteaux que j'ai chez moi en plus que ceux dont j'use, les manteaux, les chemises, les petites culottes, que j'ai en excès, la nourriture que j'ai en surabondance et qui va peut-être se pourrir et que je vais jeter puisqu'on gaspille une grande partie de la nourriture. Tout cela, non seulement je ne l'ai pas vraiment, mais je le vole au pauvre parce que lui est dans la nécessité et que ça lui revient de droit. Pourquoi est-ce que ça lui revient de droit ? Parce que ce que nous l'avons d'abord reçu de la nature. Bien sûr, c'est passé par notre travail, mais à l'origine, il y a un don premier qui conduit, qui correspond à ce qu'on appelle la destination universelle des biens. Destination originelle universelle des biens. Elle est originelle au sens où, bien sûr, si au départ les biens sont destinés universellement, quand je vais travailler la terre, bien sûr, ça devient plutôt ma terre, c'est moi qui va lui faire donner plus de fruits. Mais tout ce qui est de l'ordre de mon superflu, tout ce qui dépasse ce dont j'ai besoin, moi et les miens, bien sûr, parce que je suis responsable des miens, mais tout ce qui dépasse cela, eh bien, est d'une certaine façon réinjecté, enfin, retourne à la destination première des biens et donc doit aller à celui qui est dans la nécessité. Donc là encore, vous voyez, si je pense l'être de l'avoir, quand je dis vous devez donner aux pauvres, j'en appelle pas à votre gentillesse. C'est même pas moral, vous voyez, c'est une réflexion qui est une réflexion vraiment de l'ordre de l'être. Quand Naboth disait à Akab, je ne peux pas te céder l'héritage de mes pères, il ne lui disait pas simplement, je ne veux pas, je dis, ce ne serait pas bien pour toi même, parce que qu'est-ce que tu posséderais? Tu achètes ce domaine. Ce domaine, pour moi, c'est le domaine de ma famille, il est chargé d'histoire, il a une profondeur, il a une... Pour toi, ça va être quoi? Ça va être superficiel. Oui, cultive toi-même, déplace-toi dans l'héritage toi aussi de tes pères. Ça a une signification, ça a une profondeur historique, mais si tu l'achètes comme ça, c'est superficiel. Tu ne l'auras pas vraiment si tu fais qu'acheter, alors que moi, je vais perdre quelque chose que j'ai, et toi, tu vas acquérir quelque chose que tu n'auras pas. Donc, vous voyez, c'est une pensée au niveau de l'être. Et de la même façon, quand on vous dit « il faut donner votre superflu aux pauvres », ce n'est pas simplement de l'ordre, c'est « vous avez à le faire », mais parce que vous n'avez pas réellement ces choses. Elles ne sont même pas à vous, elles vous encombrent. Alors, la grande remarque qu'on pourrait faire, c'est que justement, notre société ignore les possibilités de se débarrasser de notre superflu. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'il y a beaucoup de lieux où on peut le faire? Ces lieux devraient être des lieux ordinaires, ça ne devrait pas être simplement Emmaüs ou... Vous voyez? Vous savez qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des supermarchés gratuits, enfin des marchés gratuits. C'est-à-dire que les gens se débarrassent de leurs choses à un endroit, et puis il y a des gens qui travaillent et qui mettent... Et ça, ça devrait être dans, partout, dans toutes les villes, dans tous les... Voilà. Parce que c'est vrai, vous pouvez toujours vous dire, bah, j'ai ces choses, mais qu'est-ce que j'en fais ? Bah, j'ai cette chose, elle atteint la date de péremption, mais je sais... Est-ce que je suis en contact direct avec tel ou tel pauvre ? Comment mettre en lien la nécessité et mon superflu ? Vous comprenez ? C'est ça la question. C'est une des grandes questions politiques. Comment faire, mettre en lien mon avoir excédentaire que je n'ai pas et l'être nécessiteux du pauvre qui, lui, en raison de sa nécessité, est en fait le vrai destinataire de cet avoir. Pourquoi n'y a-t-il pas, dans toutes les villes, un grand centre où les gens peuvent déposer ce qu'ils ont en trop, mais vous voyez, comme un truc qui n'est pas latéral, qui n'est pas marginal, c'est une nécessité. Pourquoi ? Bien sûr, parce que vous allez casser le commerce. Ouais, vous ne devez pas casser le commerce. Il faut bien que les gens aillent acheter. Donc, ah, ça, c'est une remarque, et pas une remarque, à nouveau, qui relève d'abord de la morale. Vous savez que si la morale, la vraie morale, on l'avait vu en cours de philosophie morale, se fonde sur l'être, là, vous voyez, c'est fondé sur l'être même de l'avoir. Débarrassons-nous de ce que nous n'avons pas vraiment. Laissons-le. Contentons-nous de ce que nous avons. Et alors, vous pouvez dire, oui, mais, alors attendez, il faut quand même que j'accumule, parce que je ne sais pas si je tombe malade. Et la question de l'assurance-vie, mes enfants, mes héritiers, ma descendance, etc. Et alors là, vous voyez, c'est là qu'il y a un basculement qui va être lié à l'argent, qui est lié à une projection sur l'avenir. Vous voyez, l'idée de que je peux préempter l'avenir. Et ça, c'est une mentalité spéciale, parce qu'à la fin, vous pourriez dire, bah, j'accumule sans fin, je ne sais pas combien j'aurais dû avoir. De toute façon, les mêmes qui font ça, ce sont ceux qui n'ont pas d'enfants, donc c'est un peu compliqué, mais bon... C'est très, très curieux, vous voyez. La logique de l'assurance sur la vie. Hein. Vous savez que c'est une des lois qui a le plus basculé, hein, dans l'histoire juridique. Vous avez deux lois, hein, celle sur l'avortement, où l'avortement était un crime et est devenu un droit, même un droit fondamental. C'est quand même un basculement incroyable, à tel point que c'est devenu un droit fondamental, je crois, récemment, enfin, sous le gouvernement Hollande, hein. Simone Veil ne voulait pas du tout que ce soit un droit. Elle ne pensait pas que c'était un droit. C'était une dépénalisation, mais ce n'était pas un droit. Ça a été une fabrication très tardive. Donc juste là, mais on est arrivé à un basculement incroyable. Et même chose pour l'assurance sur la vie. L'assurance sur la vie, alors, une assurance sur la vie, c'était criminel de vouloir faire une assurance sur la vie. Parce qu'une assurance sur la vie, c'est en fait une assurance sur la mort. C'est-à-dire que vous gagnez le jackpot quand le type il crève. C'est quand même ça. C'est tout d'un coup, vous monnayez la mort de quelqu'un. Et donc, c'est quand même très... Alors, bien sûr, on joue sur quoi ? On joue sur votre inquiétude, sur votre angoisse, sur la contingence de l'avenir. L'autre fois, il y a un assureur qui est venu chez moi. Il m'a proposé des assurances vie pour mes enfants. Pas sur moi, pour mes enfants, mais de mes enfants sur moi. Alors, je regardais ça avec mes enfants. Vous voyez, j'ai regardé. S'il y en a un de vous qui meurt, je gagne 10 000 francs. Et si il est simplement mutilé, je gagne 50 000 francs. Alors, je me suis dit, écoutez, je vais vous mutiler à tour de bras. Vous êtes 6, bientôt 7, 7 fois 50 000. Attends, là. Je diminue sérieusement les traites de la maison, là. Et vous voyez, alors vous pouvez dire, ah oui, mais quand même, et si jamais ton enfant, quand même, il a un accident, hein ? Alors là, vous pouvez dire, donc l'argent que j'ai en plus, j'ai plus de superflu. De ce point de vue-là, je n'ai plus de superflu. Parce que si je pense la catastrophe, je veux dire, ça va être la fin du monde, il va falloir que je reconstruise un abri avec des machines respiratoires, des trucs, peut-être pour accueillir d'autres personnes. Donc, j'ai plus de superflu. J'ai besoin de tout mon argent pour tout faire parce que je dois projeter une maîtrise totale de l'avenir. Et c'est là où il y a un problème, vous voyez. C'est là où il y a quelque chose, quel est notre rapport? Parce que c'est ça la question de l'avoir. C'est aussi, en lien avec notre être, quel est notre rapport à l'avenir? Est-ce que je dois être dans une sorte de prévisibilité absolue et de prévoyance absolue? Mais la prévoyance absolue fait que je vais me crisper comme un avare sur mon argent, vous voyez? Ou alors, est-ce que j'ai, comme disait Isabelle Rivière, c'est le titre d'un de ses grands livres, est-ce que j'ai un devoir d'imprévoyance? Un devoir d'imprévoyance. Vous voyez, ça, c'est une grande question. Et si vous lisez l'Évangile, l'Évangile nous parle à la fois d'une certaine prévoyance, hein, celui qui, lorsqu'il engage une guerre, ou lorsqu'il, vous voyez, s'assoit et voit s'il est capable, cette image-là. Mais il y a aussi, ne te soucie pas du lendemain, hein, demain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Il y a aussi cet abandon à la providence divine. Vous comprenez? Quand notre prévoyance se substitue à la providence, c'est comme quand on fait de la divination. Vous savez, c'est interdit par l'Église de la divination. Parce que vous pouvez pas justement préempter l'avenir. Parce qu'il est lié à la liberté, il est lié à la contingence, il est lié à Dieu. Tout peut arriver, si vous voulez, bien sûr. Mais y a pas, à cause de ça, précisément, vous devez vous sentir à l'aise. Plutôt que de vous dire, oulala, je vais tout maîtriser, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas savoir. Et, mais là, il y a un point très, très mystérieux. Vous comprenez? Quand on est arrivé à ça, on est arrivé à quelque chose d'assez profond. C'est pour ça que je voulais revenir sur cette question de l'être et de l'avoir au commencement de la leçon suivante. Alors, vous avez remarqué que ce qui est à la source de l'avoir, c'est le faire. C'est la technique. Souvenez-vous du texte de Thomas d'Aquin qui commente Aristote et qui dit « Mais oui, à la place de tout ce que les animaux ont, mais c'est de l'ordre de la substance et non pas de l'avoir, nous avons une raison et des mains qui nous permettent d'avoir des choses. » Alors, ce n'est pas simplement parce que j'ai fait moi-même les choses. Hein. Un avoir, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai fait moi-même avec ma raison et des mains. Mais parce que l'homme a une raison et des mains, d'abord, il peut avoir aussi ce que d'autres ont fait, mais même quand il va prendre quelque chose dans la nature, ça va devenir un avoir. Alors même qu'il ne l'a pas fabriqué comme tel, mais ça va être sur le fond de cette sorte de nudité, vous vous souvenez de l'homme qui est nu au départ, hein, et qui va, grâce à la technique et au feu, grâce à la connaissance des arts et au feu, va pouvoir, d'une certaine façon, se revêtir de toute la création, parce qu'il est nu. Et dès lors, tout devient potentiellement un avoir chez l'homme. D'accord? Cette nudité fait que, voilà, ce qui va être le complément de son être va passer par l'avoir, l'accomplissement de son être va passer par un certain avoir, voyez? Et que cette capacité de faire est à l'origine de sa capacité à se penser en termes d'avoir, à tout penser en termes d'avoir. Et donc dans cette phrase, dans ce passage, c'est très étonnant, on voit non seulement que, là c'est un peu abstrait ce que je vais dire, hein, mais que l'avoir est vraiment spécifique à l'homme, mais qu'en plus, si l'avoir est fondamental à l'être de l'homme, et donc nous, comment dire, notre manière d'avoir va induire une manière d'être, mais il ne faut pas oublier que notre manière d'avoir dépend aussi de notre manière de faire. L'avoir étant fondé sur le faire, sur ce que nous faisons avec notre raison et nos mains. Et dès lors, on retrouve cette thèse que j'ai posée au départ, que le faire, la technique, n'est pas un à côté. La technique conditionne largement notre manière de voir et notre manière d'être. Je rappelle le mot « manière » avec la main. Hein. Ce que nous faisons avec la main va conditionner notre intelligence, notre vie. Je tiens à le repréciser parce que j'en ai parlé avec l'un d'entre vous pas plus tard que dimanche, donc hier, et il me disait, mais quand même, vous allez réhabiliter quand même la technique. J'ai dit, mais je ne l'ai jamais dévaluée. Au contraire, j'ai dit qu'elle était tellement essentielle que tout devait être pensé d'une certaine façon dans considération de la technique. Donc attention, j'espère que c'est bien clair pour vous. Je n'ai jamais d'évaluer la technique, je n'ai pas à la réhabiliter, puisque au contraire, je dis qu'elle est à tel point essentielle qu'il faut la prendre vraiment au sérieux et qu'il faut la reprendre en main. Le problème, c'est qu'elle échappe désormais à notre main, puisqu'on est dans des technologies où la main et l'esprit de l'utilisateur lui interdisent tout savoir-faire, tout véritable usage. D'accord ? Donc c'est là où il y a une différence. Alors Pierre-Augustin d'abord.
Est-ce que vous pouvez reprendre s'il vous plaît la distinction entre justement manier et manipuler ?
La distinction entre manier et manipuler. Alors j'y reviendrai parce que ça sera une distinction très importante chez Ivan Illich qui va distinguer des outils maniables et des outils manipulables, qui est la traduction que lui-même fait de hand tools et power tools. Alors, mais lui, il utilise maniable, manipulable. Et alors, le maniable, c'est celui qui exigera un savoir-faire, celui que j'ai bien en main, alors que le manipulable, c'est celui qui, d'une certaine façon, produit des effets disproportionnés. Donc, c'est l'outil qui est à la fois programmé, qui a à la fois une source, une source de mouvement, à la fois dans l'énergie du mouvement, mais aussi dans la forme du mouvement, qui n'est plus la mienne. Donc, d'une certaine façon, le problème de la manipulation posé comme cela, j'y reviendrai, hein, mais posé par Ivan Illich, c'est pas simplement le fait que je manipule les autres. Mais manipuler les autres, c'est une relation diminuée par rapport aux autres, enfin pour les autres. Mais en fait, c'est que dans la manipulation, c'est celui qui manipule qui est diminué. Manipuler, ça n'est plus manier. Manipuler, c'est déclencher des processus, c'est du côté d'appuyer sur les boutons, si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec le savoir-faire de la main. Donc, si vous voulez, on ne manipule jamais un outil au sens strict du terme. On ne manipule pas un instrument de musique, par exemple. D'accord ? En revanche, vous pouvez manipuler GarageBand. Vous voyez, quand vous êtes sur des loops, des boucles que vous programmez, qui sont pré-programmées, que vous mettez voilà, sur votre ordinateur, etc., ben une boîte à rythme, vous la manipulez, une batterie, vous la maniez. Il y a la différence. Hein. Donc c'est ça la différence. Mais il y a une perte de la part de celui qui manipule, pas simplement de la part de celui qui est manipulé. C'est un appauvrissement du côté du manipulateur. D'accord ? Mais un appauvrissement qui a sa richesse, parce que vous voyez, j'appuie sur un bouton et waouh, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, j'ai même pas besoin de faire de la batterie, vous voyez, je fais un programme, je joue comme le meilleur batteur qui soit, apparemment, mais en fait, c'est pas moi qui joue, vous voyez, là. Donc, les effets sont énormes, et donc, il y a un gain du côté de l'effet, mais vous voyez, on n'a plus la main, on n'a plus vraiment la main. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais quand même, c'est des hommes qui ont fait ces trucs-là, oui, mais sans la main, c'est cérébral. Sans la main. Ce n'est pas une question de main, ce n'est plus une question de manier. La manipulation n'abolit pas l'intelligence de l'ingénieur, pas du tout. Mais l'intelligence de l'ingénieur manipule, elle n'est plus dans le maniement. Ça, c'est l'intelligence de l'artisan, si vous voulez. Donc, il y a une sorte de cérébralisation de l'opération, parce que ça passe par de l'ingénierie, ça passe par de la science, ça passe par, vous voyez, mais ce n'est plus du tout ce savoir-faire de la main. Alors, attendez, parce que vous êtes... Le savoir-faire de la main, c'est aussi de la lever, effectivement. Mais je vais prendre que quelques questions, parce qu'il faut que, quand même que j'avance. Éléonore, vous leviez la main avant, oui.
Je pensais à ce que vous avez dit sur l'assurance vie. Je trouve ça juste un tout petit peu abstrait, parce que finalement, vous avez dit ce qui compte, c'est la prévoyance, et, enfin, le juste équilibre entre la prévoyance et l'imprévoyance. Et voilà, en gros, la responsabilité et la providence, en fait.
Oui, c'est ça, oui, exactement.
Mais j'ai l'impression que c'est tellement infinitésimal, tellement petit, que je me demande comment est-ce que, enfin, comment est-ce qu'on peut normer ça et
Ah mais oui, mais vous voyez, c'est parce que vous avez une vision de la morale où tout doit être normé. Je vous pose les principes, mais après, être responsable, c'est justement soi-même discerner. Mais la prudence, c'est aussi que vous êtes livré d'une certaine façon dans votre propre situation au fait à la liberté de répondre, et de répondre justement. Donc je ne peux pas tout ramener à des normes absolues. Vous comprenez ? Donc, bien sûr, je suis au niveau des préceptes. Vous avez raison de dire que c'est abstrait ce que j'ai dit. Vous n'avez pas trouvé un pur équilibre entre un devoir de prévoyance et un devoir d'imprévoyance parce que nous devons être ouverts à la providence. Et voilà. Mais admettons que vous n'ayez pas souscrit à l'assurance vie pour vos enfants et qu'un de vos enfants ait un accident. Est-ce que vous auriez eu tort ? Pas sûr. Vous comprenez ? C'est aussi une manière de vivre plutôt qu'une manière de... Le problème, c'est que quand on veut être dans l'anticipation absolue de toute chose, à la fin, de toute façon, vous n'avez même plus d'enfants. La réalité, c'est ça. C'est que la logique de l'assurance vie, c'est une logique qui aboutit au contrôle des naissances, à la réduction des naissances, parce que, vous voyez, moi, j'ai 7 enfants, c'est-à-dire c'est dans une inconscience totale. Inconscience qui est due au rut. Mais voyez, mais il y a une sainteté du rut, de ce point de vue-là, qui nous livre à la providence.
Je vais prendre la suite. C'est plus bon que là.
Non, mais vous comprenez à quel point ça peut aller. C'est-à-dire que l'assurance vie fait qu'à la fin, vous pouvez dire, mais oui, mais vous voyez, même un enfant, qu'est-ce qui peut lui arriver ? Qu'est-ce que je... Donc, je vais tout garder mon argent. Moi, bon, parce que je ne sais pas du tout. Déjà, une personne, déjà moi-même, si je tombe malade, déjà. Donc, à la fin, vous arrêtez tout, quoi. Et cette logique du planning et de la planification est une logique qui, au bout d'un moment, vous stérilise. Donc, l'assurance sur la vie, c'est l'assurance de la stérilisation totale. Au bout d'un moment, vous voyez, c'est pour ça que c'est une assurance, non seulement sur la mort, du fait qu'on gagne, à part la mort de quelqu'un, on gagne de l'argent par la mort de quelqu'un, mais qu'en plus, on est dans une logique de mort. Il y a intrinsèquement quelque chose, c'est pour ça qu'il faut être, il faut bien voir ce qu'il y a à l'arrière-plan. Il y a une logique derrière ça qui, si on l'amène à bout, aboutit de toute façon à un refus de la vie. Voilà. Est-ce que vous pourriez, parce que là j'étais en ne pas trop remonter en amont du cours, même si c'est intéressant ce qui a été dit là. Encore plus en amont. Non, pile à l'endroit où on est. Jean, bravo. Allez-y.
Au niveau de manier-manipuler, est-ce que vous veniez d'expliquer ?
Manier-manipuler, oui, la distinction.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique le fait que, enfin peut-être c'est que mon cas, mais je pense quand même que c'est assez généralisable, qu'on apprécie plus quelque chose dont on voit la fabrication, je ne sais pas comment dire. Par exemple, j'écoute un morceau de piano de Jean Simon. Il est très fort, il est très très fort, donc c'est vraiment très agréable. Mais en même temps, je pourrais écouter un morceau de piano d'un virtuose japonais qui joue 10 000 fois mieux. Et pourtant, j'apprécierais plus le morceau de Jean Simon.
Oui, non, bah, la comparaison avec un virtuose japonais, c'est pas... bon, mais c'est pas... Mais enfin, vous pourriez écouter, je sais pas moi, Richter, par exemple, qui joue. Bon, c'est pas un japonais, vous voyez, donc c'est un russe. C'est très au-dessus des virtuoses japonais. C'est un des plus grands pianistes de tous les temps. Donc, je peux écouter un enregistrement de Richter, mais au piano. Et pourquoi est-ce que ça vaut pas, effectivement, Jean Simon, alors même que... Comparé à Richter, même il serait médiocre, hein, au sens premier du terme, très moyen, quoi. Pourquoi est-ce que, et ça c'est très intéressant, pourquoi est-ce que la musique qui est jouée devant vous est plus forte que la virtuosité enregistrée ? Bah, c'est le sujet du cours. Hein, on parlera de la question du corps, de la proximité, et puis à la limite, la musique que vous faites vous-même. Alors encore plus loin, non seulement écouter l'autre qui est proche, mais ce que vous allez faire vous-même. Donc on voit bien que le maniement est plus proche de notre humanité, réalise mieux notre humanité que la manipulation. D'accord ? Donc on est dans un domaine technique. La question c'est quelle est la technique qui est la plus humaine, la plus humanisante ? Alors je vais prendre une question, il faut que je fasse un choix. Mais je vais prendre Ferdinand, après je... Non, parce que Domiti, vous avez souvent des questions, donc... Mais Ferdinand, c'est rare.
Je me demandais, comment est-ce qu'on peut dire que le faire à la main aurait plus de valeur que le faire de l'intelligence, donc la cérébralité? Est-ce que cette cérébralité, c'est pas justement ce qu'on est avec ce panneau?
Bien sûr, bien sûr. Vous avez raison, c'est une des grandes questions. C'est ça qui va être au fond l'apologie, si vous voulez, de la technologie, comme étant un progrès à l'intérieur de la technique et non pas une rupture. Et sur cette ligne-là, la technique, c'est plutôt notre intelligence qui s'empare de la matière. Donc la main, on oublie un petit peu la main, le maniement, vous voyez, on oublie cette distinction-là. Et on va dire, ben voilà, on a fait avec la main, on le fait avec des machines, on le fait à travers, vous voyez, une science appliquée qui est de plus en plus sophistiquée. Et donc, c'est un progrès, c'est un pur progrès, c'est le progrès radical de l'empire ou le règne de l'intelligence sur la matière. C'est comme ça souvent que c'est pensé. Maintenant, je ne vais pas répondre à votre question, c'est l'objet du cours, hein. Donc je ne peux pas y répondre tout de suite. Mais l'objection est très bonne, vous voyez, parce que c'est précisément là-dessus qu'on pourrait objecter. Vous pouvez dire, ben voilà, c'est l'intelligence, mais vous comprenez déjà qu'il y a un problème anthropologique, parce qu'on va définir l'homme comme quoi, essentiellement, comme une intelligence. Donc on est dans l'angélisme. Et on va dire, plus une activité est intellectuelle, plus elle est humaine. Donc l'activité la plus humaine, c'est l'activité la plus intellectuelle. Ben non. L'activité la plus humaine, c'est une activité qui doit aussi impliquer le corps, sinon il lui manque quelque chose. Alors ça je serais implacable là-dessus, et je dénonce foncièrement toutes les formes d'angélisme anthropologique, même ceux qui ont dit... Ben oui, parce que l'intelligence nous rapproche de Dieu ou des anges, plus on va aller du côté de l'intelligence, plus on sera grand, etc. Ou parce que la raison, c'est ce qui nous spécifie, donc être plus homme fait faire des choses purement intellectuelles. Non ! Il y a le corps. Et donc, il faut que l'intelligence se déploie avec le corps. Et c'est pour ça que la prière est aussi un acte physique. C'est pour ça qu'il y a des postures. C'est pour ça que la plus haute prière, la liturgie, est un acte du corps, où nous recevons le corps. C'est pas intellectuel seulement. Et il y a un maniement, au moins une gestuelle liturgique. Vous voyez ? Donc il faut faire très attention à bien voir cette dimension du corps qui est foncièrement humaine et à critiquer toute forme d'angélisme. Et si nous avions gardé cela, nous aurions gardé une juste hiérarchie des métiers. Parce qu'on aurait vu que le métier le plus humain, c'est pas du tout le fait d'être devant un écran et d'appuyer sur des boutons toute la journée, fût-ce à manier des chiffres et qui correspondent à des masses d'argent et des profits extraordinaires. Vous voyez ? On verrait que ça... C'est un travail pire, presque, enfin, c'est l'équivalent du travail du mineur, vous voyez, moins le corps.